Le journal de Vincent Jacquin.
Bonjour, la Russie a voté et l'élu jurassien Pierre-Alain Fridé était sur place en qualité d'observateur. Le socialiste faisait partie d'une délégation réduite, ce qu'avait demandé le Kremlin à cause de la pandémie. Le projet de revenu de base inconditionnel, le RBI, est de retour. Ses partisans ont lancé ce matin une nouvelle initiative populaire et ils promettent que cette fois, ils viennent avec des solutions de financement. Le HCA Joie va découvrir ce soir la PostFinance Arena, la plus grande patinoire de Suisse. Les hockeyeurs jurassiens s'en vont affronter Berne, une équipe qui peine elle aussi à entrer dans ce championnat de National League. Le ciel devrait s'éclaircir cet après-midi et la soirée sera même dégagée. Mais les températures sont à peine de saison, maximum 19 degrés en plaine et jusqu'à 15 dans les franches montagnes. Les élections se sont achevées ce week-end en Russie et le conseiller national jurassien Pierre-Alain Fridé était sur place pour y observer les législatives. Le socialiste était à la tête d'une délégation du Conseil de l'Europe, mais son travail sur place a rencontré quelques difficultés à cause de la pandémie de coronavirus. La Russie a demandé que la délégation de surveillance soit fortement réduite et ce sont finalement 5 parlementaires qui se sont rendus en Russie. Ces représentants ont finalement fait une évaluation de la situation, faute d'avoir les moyens de réaliser une vraie observation du scrutin. Pour Pierre-Alain Fridé, il n'aurait pas été possible de faire venir une délégation de surveillance plus importante.
À l'évidence, dans un pays gigantesque tel que la Russie, qui va de Saint-Pétersbourg à Vladivostok, avec 100 000 bureaux de vote, avec l'importance de moyens qu'il faudrait pour vraiment observer, imaginez quelques centaines d'observateurs, ce n'était pas effectivement un nombre gigantesque. Voilà, on prend note de leur décision, qui était une décision aussi des autorités sanitaires du pays. C'est clairement sur place, la situation sanitaire est un peu améliorée et on n'a pas ressenti vraiment de très grandes difficultés, de grandes tensions. Mais voilà, on doit faire avec. Hein. On était invité par le pays. Quand vous êtes invité, vous devez un petit peu vous plier à certaines règles. Mais en tout cas, il y a eu discussion, il y a eu contact, même si, vous savez, avec 500 observateurs, on aurait eu des éléments qui auraient permis de faire une analyse un peu plus pointue, mais savoir exactement ce qui s'est passé dans ce grand pays, c'est quand même très compliqué.
Une marge de manœuvre fortement réduite, mais le travail réalisé sur place permettra de documenter les prochaines missions, un processus qu'il faut penser sur la longueur.
Vous savez, le Conseil de l'Europe, ce n'est pas un endroit où il y a de grandes choses révolutionnaires qui se passent. Quand vous voulez faire progresser les pays vers plus de démocratie, vous ne pouvez pas prendre les armes et leur imposer. On passe par la négociation, la discussion, on montre des contradictions. Et c'est à travers en fait, ce travail de fourmi prolongé, ce travail parlementaire, ce travail de relations, de contacts, qu'à la longue, des choses évoluent. Et notre but, vraiment, c'est de faire en sorte que les minoritaires, les gens qui n'ont pas la possibilité d'être à la Douma, d'être représentés, qui se sentent atteints dans leurs droits, qu'ils puissent aussi s'exprimer.
Le projet de revenu de base inconditionnel fait son grand retour en Suisse au travers d'une nouvelle initiative populaire lancée ce matin à Berne. En 2016, plus de 3/4 des votants avaient pourtant rejeté un RBI jugé flou et infinançable. Mais le comité d'initiative, qui se dit ni de droite ni de gauche, dit avoir retenu les leçons de 2016. Pour financer le RBI, l'initiative veut aujourd'hui taxer les transactions financières, le chiffre d'affaires des entreprises technologiques et les revenus des capitaux. Écoutez l'une des initiantes, la vaudoise Kalina Angelova.
Aujourd'hui, on voit que le système social et le système économique a des failles. De nombreuses personnes qui ont été précarisées, les personnes qui étaient déjà précarisées ont été encore plus. Et quoi de mieux qu'aujourd'hui pour se rendre compte qu'on a besoin d'une autre solution, on a besoin aujourd'hui de penser le monde autrement. Et c'est vraiment une urgence maintenant. Le texte change. Ce qu'il faut retenir, c'est que toutes les prestations sociales existantes aujourd'hui vont être adaptées, mais on ne peut pas exactement dire de quelle manière, on ne peut pas aller dans des détails aussi profonds parce que ça va être décidé ultérieurement par le Parlement. Et surtout, on dit clairement que le RBI est finançable par le secteur financier notamment.
L'association Revenu de base Suisse s'appuie sur 10 personnes qui représentent toutes les générations, les régions du pays et avec une majorité de femmes. Un comité qui a de bonnes chances de convaincre selon le Genevois Thomas Produit.
on est un comité de gens simples, on va dire, mais qui s'articule autour de deux personnes qui sont illustres. On a Oswald Sy, qui était déjà là à la dernière fois. Donc finalement, lui, il n'est plus à présenter dans le cadre de cette idée. Et aussi Rebecca Panyan, qui a justement eu ce projet à Zurich, où justement, ils ont vraiment tenté de faire une sorte de RBI à petite échelle. Le comité s'articule autour de cette hétérogénéité, justement pour nous donner de la force, tout en s'appuyant sur des gens qui ont de l'expérience et qui sont déjà, on va dire, en vue, si j'ose dire, sur ce sujet.
Le comité d'initiative pour la création d'un revenu de base inconditionnel en Suisse a 18 mois désormais pour recueillir et déposer 100 000 signatures. Le Conseil des États, lui, est prêt à abolir la taxe sur la valeur locative. Il a accepté ce matin d'entrer en matière sur la réforme de ce système critiqué depuis de nombreuses années parce qu'il taxe un revenu théorique. L'imposition de la valeur locative serait supprimée pour les logements qui sont occupés par leurs propriétaires, mais les résidences secondaires continueraient d'être taxées. La proposition passe maintenant au national. Le verdict est tombé dans l'affaire de l'enseignante qui avait bâillonné un jeune élève dans le canton de Neuchâtel. Le tribunal de police à Boudry a prononcé son acquittement ce matin. La plupart des autres accusations n'ont pas été retenues et cet épisode ne suffit pas à lui seul à prononcer une condamnation sur le plan pénal, selon la juge. Sonia Bernauer-Mia.
Un comportement inadéquat mais pas pénalement répréhensible, c'est le raisonnement qui a conduit le tribunal de police à acquitter cette enseignante de 42 ans ce matin. Cette femme en charge d'enfants de 4 à 6 ans avait admis avoir posé un foulard sur la bouche de l'un de ses élèves, mais réfutait les autres accusations émanant d'une fillette dont la mère a porté l'affaire devant la justice. Les faits remontent aux années 2015-2017, mais la plainte n'a été déposée qu'en septembre 2020. La fille de la plaignante dit avoir été attachée à un banc, bâillonnée et laissée isolée sans surveillance. Pour le tribunal, les interrogatoires des parents et élèves présents à cette époque ne corroborent pas ces dires. Seul l'épisode du garçon bâillonné revient dans les différentes déclarations. Pour la juge, la direction scolaire a pris les mesures nécessaires au moment des faits en transférant l'enseignante dans un autre collège après avoir reçu plusieurs plaintes de parents. Le seul épisode du foulard ne permet pas de retenir les accusations de contrainte et de violation du devoir d'assistance, selon le tribunal. L'enseignante est donc blanchie. Sur le plan administratif, elle a été suspendue de ses fonctions en juin en lien avec cette affaire.
Et les deux parties se laissent le temps de la réflexion en vue d'un éventuel appel. On revient dans la région où Valterbi pourrait investir pour sa jeunesse. Le conseil général est appelé lors de sa séance de ce soir à préaviser un crédit cadre de 3,6 millions de francs pour le projet de rénovation de l'école secondaire du Valterbi à Vic. La commune fusionnée supporterait environ 44% des charges puisque l'établissement scolaire est la propriété d'un syndicat composé des communes de Courchapois, Kourou, Mervelier et Valterbi. Vos précisions, Émilie Momentaler.
Ce projet de rénovation concerne l'entier de l'école secondaire du Valterbi située à Vic. Le cours central a été construit en 1960 avant de se voir adjoindre un nouveau bâtiment et une halle de gymnastique 18 ans plus tard. Deux agrandissements sont venus compléter le site en 1994 et en 2004. Si les locaux de 1960 et de 1978 ont été sporadiquement rénovés en fonction des besoins, les autres n'ont jamais été rafraîchis. Les travaux dont il est question aujourd'hui concernent la rénovation extérieure, l'assainissement de la halle de gymnastique, un assainissement énergétique et un réaménagement extérieur. Ils sont prévus durant 5 ans, essentiellement pendant les vacances scolaires, afin d'espacer les dépenses communales et de garantir le bon déroulement de la vie de l'école. Une demande de subventionnement est à l'étude auprès du service de l'enseignement et une aide complémentaire de 18 000 francs pour l'installation photovoltaïque est attendue.
Le conseil général de Valterbi est aussi appelé ce soir à préaviser le projet d'assainissement énergétique de l'école primaire de Genevray à Vic pour un montant de 1,1 million de francs. Le bâtiment a été construit il y a 50 ans et accueille 3 classes. Il s'agit principalement d'améliorer son enveloppe et de remplacer le chauffage à mazout par un chauffage par pompe à chaleur. C'est la population qui aura le dernier mot sur ces deux crédits en votation. Ce sera le 28 novembre. Les chineurs et autres amateurs de fripes devront encore patienter. La traditionnelle bourse aux habits d'automne, organisée par la section jurassienne de la Fédération romande des consommateurs, n'aura pas lieu cette année. Les organisateurs annoncent ce matin qu'ils tirent un trait sur l'édition 2021, qui devait avoir lieu à la fin du mois. Il justifie cette décision en expliquant que l'exigence d'un certificat Covid est trop contraignante, selon eux, pour un simple acte d'achat. Le consommateur, acteur de par son porte-monnaie, ne doit pas oublier le local. C'est le cri du cœur lancé ce matin par Boris Beuret dans la matinale. Le député PDC de Corban était l'invité de notre chronique politique, un tour de l'hémicycle. L'agriculteur, qui vit sa première législature au Parlement jurassien, veut sensibiliser les Jurassiens au tourisme d'achat. Boris Beuret.
Je le vois, moi, comme je suis membre de la CGF, Commission de gestion des finances, il y a toujours ce souci d'un peu booster l'économie régionale. Ce qui me déplaît ou ce qui m'attriste, c'est qu'on aille dépenser notre argent en dehors de nos frontières, une fois de temps en temps, pour une sortie comme ça. Peut-être que, bon, OK, il n'y a pas de souci, mais au quotidien, chaque franc qui est dépensé de l'autre côté, c'est vraiment le canton qui saigne. Et puis, chaque franc qui est dépensé de l'autre côté de la frontière ne sera plus jamais récupéré, quoi.
Vous parlez donc, du tourisme d'achat, donc.
Voilà, du tourisme d'achat, c'est ça. On peut imaginer toutes sortes de stratégies pour développer notre canton. Et puis, la première chose à faire, et peut-être la plus facile, entre guillemets, ce serait déjà de consommer local. Puis on sous-estime complètement l'influence de ce tourisme d'achat.
Boris Beuret était l'invité de Marceline Michon dans la matinale. Vous retrouverez un entretien complet en vidéo sur rfj.ch. La journée mondiale de l'Alzheimer se déroule aujourd'hui et à cette occasion, une habitante de la région a reçu un prix. Il s'agit de Marie Balmer des Bois. Durant le confinement, elle est partie vivre plus d'un an chez une dame de Malleret atteinte par cette maladie. Et pour Marie Balmer, cette journée est surtout l'occasion de rappeler aux proches des personnes malades qu'il est important de demander de l'aide pour ne pas se laisser dépasser.
Je dirais à tous les proches de malades qu'il faut qu'ils demandent de l'aide. Il existe des aides à domicile, il existe aussi les vacances Alzheimer, et puis il y a les groupes d'entraide, donc je suis aussi co-animatrice d'un groupe d'entraide à la Chaux-de-Fonds. Donc vraiment, il faut que les proches demandent de l'aide pour pouvoir se reposer, faire autre chose que s'occuper de leurs malades, parce qu'ils ont vraiment besoin de se reposer et de pouvoir faire autre chose que de s'occuper de leurs malades, parce qu'en général, malheureusement, les proches s'épuisent et quand ils demandent de l'aide, c'est souvent trop tard et c'est le proche qui devient malade et parfois même plus malade que la personne qui a la maladie d'Alzheimer.
Marie Balmer qui a donc reçu un prix coup de cœur décerné par les sections d'Alzheimer Berne et Neuchâtel. Elle était au téléphone d'Alexandre Michler.
RFJ, il est 12h28.
Sport. Cap ce soir sur la capitale fédérale pour le HC Ajoie. La troupe de Gary Chian s'en va batailler sur la glace de Berne à 19h45, alors que les deux formations connaissent des débuts difficiles dans le championnat de National League. Elles n'ont engrangé qu'un succès en respectivement 4 matchs pour Ajoie et 5 pour Berne. S'il veut l'emporter, le HCA devra s'adapter au plus vite à la PostFinance Arena, la plus grande patinoire du pays. On écoute le défenseur jurassien Alain Birbaum.
C'est sûr que ce sera un match un peu particulier parce que c'est la plus grande patinoire de Suisse. C'est une patinoire où il y a beaucoup de monde, il y a beaucoup de bruit. Il y a surtout ce grand mur qui impressionne quand on rentre sur la glace. Donc c'est sûr que pour les joueurs qui n'ont jamais eu la chance de jouer là-bas, ça va être un peu impressionnant au début. Mais je pense que dans notre équipe, on a quand même vécu pas mal de choses impressionnantes avec la Coupe Suisse, avec les finales et le titre. Donc on devrait pouvoir gérer ce moment-là. On l'a vu aussi à Zurich la semaine passée où c'était une patinoire un peu plus en ambiance salle de concert. Ce soir, ce sera une ambiance bien différente, mais c'est sûr que c'est un truc d'adaptation à avoir au début. Mais je ne fais pas trop de soucis, je pense qu'une fois que le match va commencer, on va se focaliser sur le jeu.
Avec l'expérience que vous avez, est-ce qu'on vous demande ou est-ce que naturellement vous allez vers les plus jeunes pour leur donner un peu des conseils par rapport à ces nouveaux environnements finalement que vous allez découvrir tout au long de l'hiver?
Ouais, c'est clair que des fois, il y a des joueurs qui me posent des questions sur comment c'est la patinoire ou à quoi s'attendre, ou est-ce que le public, ou si ou ça. Mais après, je pense que voilà, tout le monde a déjà vu les matchs un peu à la télé, tout le monde connaît un peu les choses. La seule chose qu'il y a, c'est qu'à Berne, si on arrive à être solide les 5 premières minutes, je dirais même le premier tiers, ou si on marque le premier goal, l'ambiance pourrait vite tourner, et puis ça sera bien, ça sera sous pression. À nous aussi de prendre avantage de ça.
Alain Birbaum répondait à Mathieu Schaffner, et le HC Ajoie évoluera toujours sans ses Québécois Jérôme Leduc et Guillaume Asselin ce soir dans la capitale. Le retour au jeu du défenseur et de l'attaquant est espéré pour les matchs de ce week-end. Berne Ajoie, c'est à suivre sur RFJ dès 19h30. Ce sera en compagnie de notre consultant et ancien défenseur du HCA, Kevin Rizard. C'est la fin de cette édition. Je vous souhaite une très belle après-midi.